Bienvenue dans le 5 à 7. Et le programme de ce lundi 5 octobre, généralisation des complémentaires santé, va-t-on vers une privatisation de la Sécu? C'est la question que nous poserons à 18h20 dans Du Grain à Moudre. À compter du 1er janvier prochain, toutes les entreprises du privé devront souscrire à une mutuelle en faveur de leurs salariés, mesure qui se veut généreuse, mais qui masquerait un désengagement de l'État et donc un affaiblissement de la sécurité sociale dont on vient de fêter le 70e anniversaire. Nous en discuterons avec la sociologue Colette Peck, le médecin Christian Lehmann et Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française. 18h, le journal de la rédaction présenté par Tara Schlegel. Les États-Unis viennent de conclure un accord de libre-échange avec une douzaine de pays du Pacifique. 17h55, les carnets de l'économie de Vincent Lemaire, en compagnie cette semaine de Guillaume Duval, le rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques. La méthode Hollande à l'épreuve du débat budgétaire, c'est leur sujet ce lundi. Puis tout de suite sur les docs Irène, et comme chaque lundi, le programme de la semaine.
Oui, Hervé Gardette, notre semaine documentaire qui va être éclectique. Jeudi, Olivier Chomel déclinera dans Collection particulière son horreur de la paperasse, à l'égal de celle de Thomas Thévenoud ou Éric Satie. Mercredi, Sébastien Descartes, dans les pas de Marc Bernard et son livre Sarcellopolis, mènera l'enquête sur ce que veut dire vivre à Sarcelles aujourd'hui. Et demain, fête de la science oblige, nous descendrons avec Élise Gruau et Jean Clotte dans l'authentique grotte Chauvet.
Aujourd'hui, c'est un voyage dans les ombres d'Andy Warhol.
Oui Hervé, depuis début juillet, le centre Pompidou-Metz décline Andy Warhol Underground. Et à Paris, c'est le musée d'art moderne qui nous promet un Andy Warhol Unlimited. Dans cette exposition, Shadows est la pièce maîtresse, jamais montrée dans son intégralité en Europe, même si en 1989 à Marseille, les amateurs de Warhol avaient pu jouir de la contemplation de 30 panneaux sur les 102 qui composent aujourd'hui à Paris une série de 130 mètres de long. Sur les docks étaient présents au moment de l'accrochage.
I was sleeping, gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home?
Galerie Templon, bonjour.
Oui, bonjour, je suis à la galerie Daniel Templon.
Bonjour.
Allô?
Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head.
Bonjour, vous êtes sur le téléphone de Sébastien Gopial. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Merci.
Je vous appelais pour avoir des nouvelles de Shadows. On est à 3 mois de l'exposition. Je voulais savoir un petit peu où vous en étiez.
Oh my, and who really cares?
Allô?
Oui, bonjour. Alain QF?
Pardon?
Alain QF?
Oui, absolument.
Et je voulais savoir, est-ce que vous aviez eu la chance de voir cette œuvre?
Oui, tout à fait. À la fondation DIA.
Yes.
Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom happens all the time?
Oui, on a été coupé.
Ah, oui. Excusez-moi. Oui, donc Stéphane...
Oui, je vous passe Victoire, notre attaché de presse, n'inquiétez pas.
Oh, I'm glad to hear from you all.
No.
Oui.
Allô?
Oui.
Comment puis-je vous aider?
J'ai reçu le détail des œuvres qui allaient être exposées. Et concernant Shadows, je voulais savoir un petit peu, voilà, si vous aviez des éléments nouveaux ou comment les choses s'orchestraient, quoi.
I am calling, yes, I'm calling just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
Oui, bonjour.
Bonjour, oui. Je vous téléphone parce que moi, je prépare un documentaire sur Warhol. Et sur une œuvre qui s'appelle Shadows,
oui.
Quelqu'un m'a dit que peut-être Daniel Templon avait un des exemplaires. Alors je voulais savoir si c'était vrai.
Je suis sur un site là, de la DIA Art Foundation. Visiblement, c'est eux qui possèdent le,
oui,
le Shadows. Et il y a toute une notice. Je vais prendre vos coordonnées.
Merci.
It's Warhol, actually. Hall.
Dans les ombres d'Andy Warhol.
Oui.
As in Halls.
Un documentaire de Stéphane Bonnefoy.
Andy Warhol. Andy Warhol.
Oui.
Et Christine Robert.
Oui, d'accord.
Combien sont-ils parmi les connaisseurs de Warhol?
à avoir vu son œuvre la plus imposante et la plus mystérieuse. Une poignée à peine. Les 130 mètres de peinture qui composent The Shadows ont quitté pour la première fois au mois de septembre 2015 les États-Unis pour le musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est une œuvre vierge qui est soumise aux regards européens. Une œuvre idéale pour se rapprocher d'Andy Warhol. Artiste aussi froid qu'une icône ou qu'une machine, que l'on croirait privé d'affect. Alors que ses portraits de Mao ou de Marilyn sillonnent la planète à un rythme frénétique, ses shadows restaient invisibles, étrangement silencieuses. Comme si les ombres de Warhol ne pouvaient être comprises que du côté de New York, où l'œuvre repose depuis sa création à la Factory en 1978. Œuvre abstraite ou cinématographique, miroir ou monument, les Shadows nous emportent dans un endroit peu fréquenté d'Andy Warhol. Une zone sensible, son décor lumineux et profond, une traversée des ombres.
Was inspired by Walt Disney. He was the person I really always admired and still do.
Vous avez surtout été inspiré par Walt Disney.
Well, before I used to just get them from magazine pictures and movie star magazines, and now people ask me to do their portraits.
Ce sont les gens maintenant qui vous demandent de faire leurs portraits. Mais si ces gens-là vous ne sentez rien vis-à-vis d'eux, vous les faites quand même?
Well, that's the best way I like to do portraits is not really knowing the people.
Monsieur Warhol adore faire les portraits des personnes qu'il ne connaît pas. Il pense qu'il les fait, il les réussit beaucoup mieux.
À l'heure actuelle, on considère que Walt Disney s'adresse surtout aux enfants. Est-ce que votre peinture s'adresse aussi à ce public très jeune?
Yeah, I just paint for children, under five.
Traduisez.
Andy Warhol peint pour les enfants de moins de 5 ans.
Ah, are you ready?
Yeah. Andy Warhol looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all.
Alain Cueff, près de 30 ans après la mort d'Andy Warhol et les centaines d'expositions qui lui ont été consacrées, est-ce qu'on peut dire qu'on a une bonne connaissance d'Andy Warhol et de son œuvre?
Oui, les expositions se succèdent presque à un rythme effréné, les publications, les études, et on peut dire raisonnablement que oui, maintenant on a une idée assez complète grâce aussi à l'ouverture des archives qui sont conservées à Pittsburgh dans le musée qui lui est dédié. Maintenant, la vraie question, c'est plutôt une question d'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec cette masse de documents supplémentaires, avec des films qui sont restaurés, ça aussi c'est un aspect important. Et est-ce que notre regard change? Est-ce que nous avons envie de changer notre regard sur l'œuvre de Warhol? Ou est-ce que, au contraire, on préfère en rester à un certain nombre de conventions qui ont très bien fonctionné, du vivant de Warhol, et bien après sa mort, des conventions que tout le monde connaît, c'est-à-dire un artiste mondain, superficiel, l'inscription de son travail dans la société, dans le divertissement. Cette fameuse citation, toujours répétée, si vous voulez tout connaître sur Andy Warhol, il suffit de regarder la surface de mes tableaux, de ma personne, tout y est, il n'y a rien derrière. C'est pas une citation verbatim, mais tout le monde s'en souvient, et qui fonctionnait comme un piège, c'est-à-dire que encourager le public à ne regarder que la surface, c'est aussi dire qu'il y a au contraire beaucoup de choses derrière. Donc la question de ce qu'il y a derrière la surface, elle est encore trop effleurée, à mon sens, et je crois que, en dépit de la bonne connaissance factuelle que nous avons de son œuvre, il faut peut-être essayer de changer de point de vue et d'essayer d'imaginer un Warhol plus compliqué que celui qu'il a fabriqué lui-même et que le milieu de l'art a fabriqué et continue de promouvoir.
Vous vous voyez continuer à faire exactement ce que vous faites maintenant des portraits? Oui, j'espère que ça va continuer, j'espère vraiment. Pourquoi vous tirez plus de plaisir à faire 30 ou 40 photos plutôt qu'une seule? Comme ça, je peux écouter mon lecteur de musique, ce que j'ai là. et écouter de l'opéra ou des choses comme ça.
Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir en peignant?
Non, vous pouvez écouter de la très bonne musique.
La peinture est une excuse alors pour écouter de la très bonne musique?
Oui.
Sébastien Gocalpe, un des deux commissaires de l'exposition Andy Warhol Unlimited. On est là dans l'entrée de l'exposition, dans une salle en fait entourée de self-portraits, d'autoportraits, parce que les gens attendent de voir Warhol, donc qu'ils soient servis dès l'entrée. On les a mis en face de boîtes de soupe Campbell, où en fait il reprend la même image, ce sont des boîtes de soupe qu'ils consommaient pour manger. Et donc c'est cette manière de sérialité, de répétitivité qui est toujours à l'œuvre chez Warhol. Et ça nous intéressait de commencer comme ça, parce qu'en fait les shadows c'est une même image, ou deux mêmes images répétées 102 fois. Il y a 17 couleurs, vous allez voir, les ancrages sont très différents, les épaisseurs, les matières. Et finalement, vous avez 102 œuvres à la fois égales et très différentes.
Quand je suis obligé d'y réfléchir, je sais que la toile est mauvaise. Et le choix des dimensions est une réflexion, de même que celui des couleurs. Mon instinct en matière de peinture me dit, si tu n'y penses pas, ce sera bien. Certaines personnes qui peignaient de l'abstrait s'installent dans la réflexion parce que ça leur donne l'impression de faire quelque chose. Mais je n'ai jamais l'impression de faire quelque chose quand je réfléchis.
On arrive donc après dans cette salle des chaises électriques. Warhol décline les chaises électriques dans, comme il fait dans toutes ses sérigraphies, dans tout un tas de couleurs différentes, et notamment certaines qui sont noires sur fond noir, comme celle-ci, vous avez presque un monochrome, et à l'inverse, celle-ci, qui est des couleurs psychédéliques, c'est l'époque où le LSD circule assez librement finalement à New York. Et donc vous avez comme ça un jeu sur la couleur, et Warhol dit, dans un de ses catalogues, il dit « Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui mettent une chaise électrique au-dessus de leur canapé, parce que la couleur correspond. »
Alors, il y a bien évidemment les chaises électriques, les accidents de voiture, les suicides. Très tôt, hein, il faut se souvenir que Warhol est consacré comme un artiste pop, avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire, au fond, une certaine décontraction par rapport à la société américaine de l'époque. Et cependant, très vite, il peint des sujets tragiques et il expose au grand jour son obsession de la mort.
Et ça, il suffit de voir les admirables, les bouleversants, je dirais, skulls, c'est-à-dire les têtes de mort.
Philippe Solers.
Qu'il a fait en parallèle avec les portraits.
1990.
Ou bien ses autoportraits, saisis par la mort, par d'ailleurs, sorte de très curieuse prémonition des dangers, même à quoi l'exposait son œil, pour se convaincre qu'il y a là quelque chose de très, très, très avertissant, hein, très, très, pour la société tout entière, planétaire. Il suffit de se demander, par exemple, c'est fondamental, est-ce qu'il y a eu un autre peintre américain qui a fait des portraits? Très peu. Ou des autoportraits, qui a pris le risque de se représenter lui-même, soit à travers des polaroïdes, soit à travers des films, soit à travers cet auto-enregistrement de sa propre image. Figuration tout de suite, mais figuration au sens le plus frontal, le plus déniaisé, le moins psychologique, voilà. Le plus violent, y compris sur soi-même, se prenant soi-même comme objet. C'est le seul peintre américain qui ait osé la figure.
Donc là, on est en train d'accrocher les fleurs. Warhol, en 64, dans la galerie Léo Castelli, puis en 65, galerie Zonabend à Paris, va tapisser les murs des deux galeries de fleurs. Et c'est un motif qui est répétitif, là encore. Du fait qu'il le couvre complètement, va transformer en fait la galerie en espèce d'immense papier peint. On a essayé justement de reproduire cette dimension de saturation. Ce qui intéresse Warhol, c'est justement la perte d'aura, la perte d'unicité, la perte d'iconicité, produire un maximum d'œuvres pour... En vendre un maximum aussi.
J'ai commencé comme artiste commercial et je veux finir comme artiste d'affaires. Après avoir fait ce qu'on appelle de l'art, j'ai plongé dans l'art des affaires. Je voulais être un businessman de l'art ou artiste des affaires.
It's Andy Warhol's TV with supermodel Carol Alt, New York Ranger Ron Greshner, Senator Patrick Moynihan, English rock group Duran Duran, and photographer Horst.
I'm Andy Warhol, and this is Maura Moynihan.
And tonight on the show, we have model Carol Alt and the hockey star Ron Greshner.
And she's so beautiful, and they got engaged.
And we have Senator Daniel Patrick Moynihan.
And he came down here for lunch.
And we have the rock and roll band Duran Duran.
And they wear more makeup than you do, Maura.
And we have the
dans les années 70, il continue,
Myriam Corichi,
de manière exponentielle, à multiplier les activités. Il va continuer à faire de la peinture, des films, il ouvre sa nouvelle factory et il commence à faire de la télévision, il fait du magazine de mode. Pour lui, le succès, c'est s'étendre et non pas monter. Ça explique beaucoup de choses sur cette frénésie d'activité.
Andy was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work.
Faire de bonnes affaires, c'est l'art le plus fascinant. Pendant l'ère hippie, les gens méprisaient l'idée d'affaires. Ils disaient, l'argent est nocif, et le travail est nocif. Et les bonnes affaires sont les plus beaux des arts.
Ce qu'on lui reproche, évidemment, c'est de faire le jeu de la société de consommation. Il est dans une position de neutralité totale, contrairement aux autres, même donc Rauschenberg ou Jasper Johns, qui vont critiquer explicitement. Ils vont faire de la critique de la société un objet. Warhol va juste être dans une espèce de dent et va montrer. Il va présenter un miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est prendre les images dont nous sommes assaillis et les détourner, les dérouter.
À l'égard de la société, c'est un stratège. Il a un marché, au fond. Il faut s'occuper de sa clientèle, si on veut être tout à fait trivial. Donc il a des stratégies qui fonctionnent très très bien, y compris jusqu'à la fin.
Andy Warhol, séance Polaroid, à la Factory, 1971.
Huh? No, I'm just trying to get a picture collection. No. Will you take a picture of me?
Il a le talent, il a ça dans le sang aussi, hein, ce talent de communicant, habile, qui est capable de réveiller l'intérêt pour son travail par des séries, par des expositions et par un comportement, par des publications aussi. Donc son rapport au réel est un peu distancé nécessairement, il est un peu aloof, il est un peu au-dessus des choses, il est un peu détaché, il a...
Why not?
Well, I hadn't thought about it.
It doesn't bother you at all, then?
No.
Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means?
No.
Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now?
Yes.
Do you think it should break away from being pop art?
No.
Are you just going to carry on?
Yes.
Dans l'accrochage des shadows. Et vous voyez en fait les shadows comme elles ne sont pas censées être vues, puisque vous voyez les shadows en cours d'accrochage, et qu'une des particularités de shadows, c'est cet effet de choc, en tout cas de masse que vous devez avoir en arrivant dans cette salle, recouverte entièrement de ces sortes de tableaux. Entre chaque tableau, on met un scotch noir qui permet de garder une image entière. Parce que Warhol dit c'est une œuvre en 102 parties. C'est à la fois 102 tableaux, mais en même temps une œuvre qui se tient d'un bloc. Et donc il faut la voir comme une continuité. Et cette œuvre, justement, du fait de son volume, n'avait jusque très récemment pas voyagé en dehors des États-Unis. Une petite partie avait été présentée à Marseille dans les années 90, mais l'intérêt évidemment c'est cet effet de masse et d'environnement. Vous vous plongez dans l'œuvre et vous perdez vos repères, il n'y a plus de repères et en même temps vous êtes entouré, c'est quand même assez rare. Par la peinture, vous plongez dans la peinture.
J'aime l'argent sur les murs. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau de 200 000 dollars. À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent, d'en faire une liasse et de l'accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, la première chose qu'on verrait serait l'argent au mur.
Ok, t'es droit.
Moi, je vois plutôt ça comme... Ce serait un peu comme les nymphes et Anne Monet, où vous avez cette image qui court sur tous les murs de l'orangerie, qui est à la fois abstraite, ce sont des traînées de peinture, et en même temps, c'est extrêmement figuratif, c'est juste le jardin de Monet. Là, c'est pareil, vous n'allez pas tant voir un objet, parce que l'origine de l'homme porté vous intéresse peu, mais vous allez voir cet ensemble un peu comme un cirque, presque, où vous arrivez, vous êtes au centre d'une arène. Et la question, en fait, de abstrait figuratif n'est pas vraiment... celle qui est centrale dans cette œuvre, c'est plutôt cette ambiance, cet environnement qu'il a essayé de recréer.
Avec les Shadows, il n'y a pas de sujet palpable. On est confronté à quelque chose qui est de toute évidence dramatique, à la fois par la quantité des œuvres, par la répétition de deux motifs, par la majesté, par la solennité de l'installation. On voit bien tout de suite en rentrant dans la salle des Shadows qu'il s'agit d'autre chose, que la répétition n'est pas une fin en soi, qu'elle est un instrument. Qu'elle sert à quelque chose, qu'elle n'est pas simplement une multiplication. Elle dit clairement ce qui est implicite à d'autres époques de sa vie et de son travail, c'est-à-dire, oui, il y a une dimension tragique à la vie que l'art est à même de représenter et qu'il a aussi le devoir de représenter. Et brusquement, en 79, alors qu'il a déjà échappé à un attentat et que cette obsession ne le quitte pas... Avec les Shadows, tout se passe comme si il voulait voir la mort en face. On pourrait peut-être faire cette hypothèse, en tout cas. Si vous voulez, pour abattre mon jeu d'entrée, les Shadows, c'est une histoire de passage. C'est une porte. Ou c'est une série de portes. De portes qui s'ouvrent sur d'autres portes. Alors, ça a l'air un petit peu mélodramatique, mais je crois que fondamentalement c'est ça. Alors, on n'a pas encore bien vu l'installation, mais le grand avantage de pouvoir voir les 102 tableaux, presque pour la première fois, c'est aussi, je crois, de pouvoir rendre sensible le fait que c'est pas seulement une organisation plastique formelle qui associe un tableau à un autre par bien de deux motifs, en fait. Mais le fait que chaque tableau construit le suivant, d'une certaine façon, et que cette idée d'un passage infini, c'est comme si on passait par une porte, et que, comme dans un film de Kafka, une porte en cachait une autre, et voilà, ça continue, et qui fait que ça dure, que c'est une expérience qui dure. Je pense que la répétition, spécialement dans le cas des Shadows, est aussi entendue comme ce qui permet de faire durer les choses et de faire durer l'expérience du spectateur. Warhol était loin d'être un imbécile, évidemment, c'est une... Et il avait conscience du fait aussi que dans l'expérience contemporaine de la peinture et de l'art en général, il y avait une vitesse du regard qui s'est imposée par le cinéma, par toute une série de raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant, mais... Et que un des devoirs de l'artiste, c'était de ralentir les choses, de prolonger le temps, de lui donner une consistance totalement inhabituelle, comme il a pu le faire dans un film qui s'appelait Four Stars, c'est-à-dire 4 étoiles, qui durait 24 heures, qui procédait aussi du même esprit, d'une certaine façon, c'est-à-dire insister jusqu'à peut-être le spectateur soit non pas découragé, mais qu'il soit pénétré par une idée qui n'est pas perceptible immédiatement dans un seul tableau.
C'est prévu jeudi, non, l'éclairage, je sais pas.
Je sais pas, je suppose, oui.
que celles-ci, je les ai, enfin les rouges, bleus, je les ai vues dans l'autre partie de la salle avant qu'ils ne qu'ils commencent l'accrochage. Et bon, elles sont beaucoup plus vives, hein, déjà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le temps de s'ennuyer, vous voyez. Donc là, effectivement, bon, on a, je sais pas, on les a pas comptés, mais il y en avait quoi ? Il y en a une petite vingtaine. Hein. J'attends de voir l'ensemble. Hein. Enfin, il y a la qualité des couleurs et puis ces espèces d'effets de texture vraiment, vraiment étranges.
J'aime peindre ce des carrés parce qu'il n'est pas besoin de décider si ça doit être un petit peu long ou un petit peu court ou dans quel sens. C'est juste un carré.
Tu dois jouer, il faut le descendre. Donc ça, c'est, enfin, c'est vraiment quelque chose qui faisait au ballet brosse, hein, les ballets serpillères.
J'ai toujours eu envie de faire mes tableaux tous de la même taille. Mais il arrive toujours un type qui vous dit « Tu devrais le faire un peu plus grand ou un peu plus petit. »
Non, bah, dès qu'il y a un essai d'éclairage, enfin, ça prend un peu plus de pêche. C'est autre chose.
Quand je suis obligé d'y réfléchir, je sais que la toile est mauvaise.
Oui, oui, là on voit bien.
Et le choix des dimensions
de texture,
est une réflexion, de même que celui des couleurs.
Mais le bleu, c'est pareil. Hein. Enfin, l'espèce de bleu nuit est en fait extrêmement intense.
Sur la fabrication des shadows, il y a une sorte de controverse, hein, qui me semblait, pour ma part, éteinte, dans la mesure où on a trouvé dans les archives une quantité de photographies faites par Ronnie Cutrone, de petites maquettes que Warhol lui avait demandé de réaliser, ou qu'ils avaient réalisées ensemble. Et Ronnie Cutrone, qui était son assistant à cette période-là, a produit des centaines de clichés. Parmi ces centaines de clichés, il en a choisi deux pour la série qui nous intéresse, et puis... ce que Warhol photographie, c'est l'ombre. Et c'est jamais très clair, puisqu'il y a aussi des inversions du motif, donc on ne sait jamais très bien si ce que l'on voit, c'est l'ouverture, si c'est le châssis de la porte. Tout d'un coup, elle ouvre sur une dimension inconnue, tout simplement. Alors, les métaphores n'ont pas besoin d'être compliquées pour être excellentes, pour avoir un impact émotionnel et poétique fort. Et au contraire, si on envisage les Shadows comme autant de portes qui se succèdent les unes après les autres, on peut se livrer à un vertige, ou on peut être saisi par un vertige. Un passage d'une vie beaucoup plus méditative qu'on ne veut bien le dire, quand même se souvenir qu'il y avait presque un côté Dr. Jekyll and Mr. Hyde chez Warhol. C'est-à-dire que les dîners, les réceptions pendant une bonne partie de la journée, et puis tard dans la nuit, un homme qui rentre seul chez lui dans un hôtel particulier où très peu de gens étaient admis et qui est entouré d'œuvres pieuses des siècles passés et qui reste seul très longtemps, jusqu'à midi le lendemain, avant de reprendre sa vie mondaine. Mais toute cette dimension-là, qui est, pour le coup, bien documentée, des témoins excellents, comme John Richardson, qui ont parlé très clairement de tout ça, de cette vie secrète de Warhol, il faut bien qu'elle se traduise quelque part dans son travail. Et de toute évidence, les Shadows peuvent être vus comme le produit ou le fruit de ces méditations solitaires, et méditations qu'il faut prendre très très au sérieux.
Alors le 3 juin 1968, à la Factory, Valérie Solanas, qui est,
qui est en fait une figure du milieu underground et borderline new-yorkais de cette époque-là, tire trois coups de feu sur Andy Warhol et Warhol passe vraiment à côté de la mort. Hey, look everybody, Valerie's back. What have you been up to, Valerie? Still writing Jerry Bucks. Oh, doesn't she look beautiful? She's wearing makeup. Yeah, she looks fabulous.
Avant qu'on ne me tire dessus, j'ai toujours pensé que j'étais à demi présent plutôt qu'entièrement. J'ai toujours soupçonné que je regardais la télé au lieu de vivre la vie. Quand je me suis réveillé quelque part, je ne savais pas que c'était à l'hôpital, ni que Bobby Kennedy avait été abattu le lendemain de mon attentat. J'ai entendu des paroles de rêve à propos de milliers de gens qui se reliaient pour prier à la cathédrale Saint Patrick. Et puis j'ai entendu le mot Kennedy qui m'a ramené au monde de la télévision parce que je me suis rendu compte que j'étais là et que je souffrais.
Les photos prises immédiatement après l'attentat sont incroyablement effrayantes. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il est mort, avec la tête qui dépasse du brancard, penché en arrière. C'est tout à fait saisissant. Enfin, médicalement parlant, oui, c'est une sorte de... Il a joui d'une résurrection.
Parce qu'il a eu à peu près 5 organes perforés par la même balle qui a ricoché à l'intérieur, enfin un truc assez inouï. Mais il s'en est tiré, mais il devra vivre avec un corset toute sa vie. Puis il y a de grandes chances que l'opération bénigne qu'il a emportée en 87 ait un rapport avec les séquelles de cette tentative d'assassinat. Il est passé de l'autre côté. Il est revenu.
On m'a donc tiré dessus à mon lieu de travail. Andy Warhol Enterprises.
Warhol aura eu cet extraordinaire sort d'être tiré comme un lapin à bout portant par une militante féministe en plein délire. C'est l'assassin qui délie, Warhol jamais. Si vous voyez la photo fameuse de Mapplethorpe, n'est-ce pas, vous voyez que le fait qu'il a lutté pendant un mois entre la vie et la mort à l'hôpital se voit par les zébrures de cicatrices qui font de lui un corps tout à fait particulier.
We'd like to know, really, since he's still in a critical condition in that he's still being operated on, we'd like very much to know if his chances are improved now. It's a terribly shocking blow for us. He was a man we can only consider to be in the midst of life. You know, he's there around us all the time. We see him and we know him and we talk to him. We feel his presence. He has a kind of magic presence, and that's partly why this kind of circumstance could have occurred.
Pourquoi est-ce que Valérie Solanas tire sur Andy Warhol?
Elle a fait des déclarations un peu étranges que c'était pour attirer son attention, que c'était parce qu'il avait pris le contrôle de sa vie.
You worked with Andy quite a lot. Did you know this girl?
Yes, I met her once or twice.
How would you describe her?
Mixed up.
How do you feel now?
Splendid. Not very well.
Manifesto.
Et donc Valérie Solanas est présentée comme une féministe.
1967.
Elle écrit dans la même année... ou à peu près un manifeste extrêmement violent qui s'appelle SCUM.
Le mâle est un accident biologique, 2 points.
SCUM en anglais, ça veut dire raclure ou pourriture.
Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule.
Mais SCUM, ça peut être aussi un acronyme pour Society for Cutting Up Men.
C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes.
Valérie Solanas propose une société dont les hommes auraient été éliminés, purement et simplement, et violemment, surtout.
En d'autres termes, L'homme est une femme incomplète. Point.
Comme Warhol filme au kilomètre dans sa factory, elle lui envoie un scénario, Up Your Ass, qui raconte les histoires d'une prostituée lesbienne. Et Andy Warhol, qui est, à chaque fois qu'il essaye de faire un film, il est censuré, il s'est mis sous le label Blue Movie, donc pornographique. Il lit le scénario et il trouve ça tellement, c'est ses mots, dégueulasse, qu'il est certain en fait que c'est un piège et que Valérie Solanas est une flic. Donc Warhol met ça au fond d'un tiroir et comprenant qu'elle va pas lâcher le morceau, Warhol là, du coup lui propose de tourner dans un de ses films, I, a Man, un film qui n'est pas du tout féministe. Et elle accepte, elle en est même contente, paradoxalement. Et ça, c'est quelques mois avant la tentative d'assassinat.
Vendredi 8 juillet 1977. Au fait, quelqu'un a vu Valérie en train de rôder dans le village. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'elle voudrait encore me tirer dessus? Est-ce qu'elle essaierait d'être gentille? Lundi 4 mai 1981. J'ai eu une menace de mort, j'y reviendrai. Mardi 5 mai. Vincent a fait appeler un service de sécurité. Il ne voulait pas que je vienne au bureau, mais j'avais du travail. J'ai acheté un gilet pare-balles, $270. Le type était vraiment con.
C'est un trauma épouvantable qui a changé complètement sa vie, d'un point de vue pratique, sa façon de percevoir les choses, ce qui a renouvelé son rapport aussi à Dieu. Il en parle dans une interview quelques temps après l'attentat. Il en a parlé à plusieurs reprises, mais avec beaucoup de pudeur, beaucoup de tact. C'était pas du tout son genre que de dire « je suis un nouveau Lazare ». Et je crois qu'il a, au contraire, réinvesti cette sensation de vie ou cette sensation de résurrection dans son travail.
Vendredi, 17 avril 1981. Travaille jusqu'à 6h30. Rupert m'a invité à une soirée entre garçons sur Bleecker Street, mais j'étais trop déprimé. Manger à la brasserie, $40. Retour à la maison, désespéré parce que personne ne m'aime, que c'est Pâques, et j'ai pleuré.
On pourrait refaire une analyse en prenant 68 comme point de basculement, l'attentat de Solanas comme point de basculement, et considérer qu'il y a un avant et un après. L'après est caractérisé par une capacité à montrer les objets de sa religion. Je rappelle qu'il y a une double série, parce qu'elle date de la même année, une série de crucifix et une série d'œufs, qui sont aussi des tableaux abstraits, avec beaucoup de guillemets, et qui en même temps sont... La croix, c'est une évidence, mais les œufs, ce sont les œufs de Pâques qui relèvent de la tradition familiale, orthodoxe, des œufs de Pâques peints. Donc, il a plus de facilité, ça vient pas tout de suite, naturellement, mais il a plus de facilité à s'attaquer à des sujets explicitement religieux après 68.
Le 1er avril 1987, le clergé catholique new-yorkais décide de faire une messe solennelle en l'honneur d'Andy Warhol. Donc, pour ce petit immigré tchèque, catholique, ce grand service solennel où toute la société pourrie de l'art et de la représentation du spectacle se retrouve dans la cathédrale de New York. Et là, on apprend, au stupeur, que Warhol, après, surtout sans doute après cet attentat, allait tout le temps à la messe et puis qu'il passait son temps à aller nourrir des clochards. Dans une autre église qui se trouve pas trop loin. Et donc, il a eu une sorte de vie absolument inconnue de tout le monde, secrète. Une vie de... quasiment monastique.
Il les donnait, hein, il allait nettoyer les clous d'eau, les leur donner à manger, tout ça. Bon. Vous prenez donc l'Amérique des années 60, 50, 60, 70, 80, la formidable explosion de l'image, de la publicité, de la perversion ouverte, comme telle. Et ce Warhol, donc, dans un autre monde, le décalage en tous les sens du mot, stupeur et plaisanterie, en quelque sorte, retournement incroyable, le curé vient révéler ça en chair, en disant, nous faisons cette messe, parce que Andy, Warhol, était donc une sorte de saint, en gros, comme ça. Alors je crois que le moment n'est pas encore venu, sans doute parce que les gens ont le nez trop sur cette affaire, un nez encore trop entaché de sociologie. Mais le moment viendra certainement où on commencera à se demander quelle a été l'opération Warhol. De quoi il nous a prévenu, qu'est-ce qu'il nous a dit, quelle est la technique de détachement interne qu'il a eue par rapport à tout ça.
Donc mon hypothèse, c'est que plutôt que d'être explicite et de se, au fond, de courir le risque d'une incompréhension totale, Warhol a choisi de maquiller ou de masquer le ressort profond de sa créativité, de son œuvre de peintre et de cinéaste. En particulier le rapport aux icônes de son enfance, hein, qu'il avait l'occasion de contempler chaque dimanche, s'est vu transfigurer, transformer, adapter, si vous voulez, depuis les produits de l'industrie culturelle et qui ont pour nom les stars d'Hollywood, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor et tant d'autres. Il reconduit un certain nombre d'idées, de sensations qui sont directement issues de la culture religieuse qui a été la sienne dans son enfance. Il les reconduit dans un vocabulaire qui est acceptable, compréhensible par tous et qui est immédiat. Disons les choses de façon encore plus tranchée. Si vous faites le portrait de la Vierge en 1960 ou en 1980, ça ne parle plus à beaucoup de monde. Donc, en revanche, si vous prenez l'actrice la plus fascinante, qui est Marilyn Monroe, et que vous dites « je vais la peindre le jour de sa mort », vous la prenez, vous gardez Marilyn Monroe, ce qu'elle est, c'est très reconnaissable, qui facilite le rapport du public à cette image, et en même temps, vous injectez dans cette image des connotations plus secrètes qui pourtant habite cette image et qui fait que le portrait de Marilyn Monroe, peint par Warhol, a une puissance bien supérieure à d'autres représentations de la même Marilyn par d'autres artistes. Mais ça, c'est pas une inspiration mystique, c'est pas une extase, c'est pas une. Vous voyez, c'est pas Roscoe qui représente l'infini sur son tableau, qui le propose comme tel. C'est fondamentalement une adhésion de la part de Warhol au dogme de l'incarnation et un questionnement sur ce que signifie la possibilité même de représenter un être humain en peinture. Donc voilà, c'est la combinaison de deux codes. Un code, disons, commercial, très convenu, très banal, très admis, et un code religieux obsolète ou qui a perdu de sa puissance suggestive. Donc si je le dis comme ça, ça va être un peu trivial, mais pour une grande part, l'œuvre de Warhol est une réactualisation des valeurs religieuses du catholicisme.
Assez proche pour pas prendre trop d'angle. Merci. Ton gradateur est à fond là. Ah, voilà.
Avec donc Alexis Cosman, qui est l'éclairagiste de l'exposition, ouais. Et qui fait des essais de lumière, de température, de cadrage.
C'est très délicat parce qu'il y a beaucoup de noir, mais c'est un noir très texturé, donc c'est intéressant de faire ressortir dans une certaine limite les reflets pour ressentir le geste de l'artiste, en fait.
Et puis savoir si on éclaire tout le mur ou juste la partie basse, est-ce qu'on fait briller le noir de l'encre sérigraphique ou est-ce qu'on reste mat?
Tu mets bien toujours le gradin à fond.
Je crois aux espaces vides en vérité. Mais en tant qu'artiste, je fais plein de saloperies. L'espace vide est un espace jamais gâché. L'espace gâché, c'est n'importe quel espace affublé d'art.
J'ai l'impression que cette ambiance, elle n'a pas les deux tubes de couleurs différentes. J'ai l'impression que ces deux tubes chauds ne donnent pas le même rendu que les autres. La lumière joue vraiment sur le rapport entre l'œuvre et l'espace. On peut éclairer l'œuvre toute seule comme une diapositive, comme un abri de cou, mais ça n'a plus de sens à ce moment-là, ça ne la distingue plus d'une simple image qui serait sur un écran de téléphone portable. Là, tout le jeu, c'est de redonner de la matérialité à l'œuvre et de l'inscrire dans un rapport avec l'espace.
C'est ainsi que, d'une part, je crois aux espaces vides.
Si tu regardes la plage sur le mur, c'est beaucoup plus chaud.
Et d'autre
c'est
part,
deux tubes chauds. Okay, je t'en passe une autre.
Je fabrique toujours de l'art. Je fabrique toujours des saloperies pour que les gens les mettent dans leurs espaces qui, à mon avis, devraient rester vides. C'est-à-dire que j'aide les gens à gâcher leur espace alors qu'en vérité, je voudrais les aider à vider leur espace.
Attends, je vais lever un peu les vis. En fait, le rôle de Alexis, c'est de se faire oublier, c'est-à-dire éclairer, mais on a l'impression que c'est totalement naturel et, la lumière, et attendu.
La lumière immanente.
Et puis, il y avait aussi, comme cette œuvre était faite en 78-79, donc la période disco, il y a un côté comme ça, un peu strident, ces couleurs acidulées qu'il faut arriver à récupérer. À la fois ce côté très violent, fluo parfois, et puis ce côté très noir, il faut arriver à garder les deux dans l'éclairage.
Il avait pris l'habitude très tôt de fabriquer des histoires. Et là, l'histoire autour des Shadows, c'est de dire oh, vous savez, il y avait de la musique disco pendant le vernissage, donc c'est un décor disco. Je pense pas qu'on puisse prendre, voir la lettre. Il faut l'écouter et il faut entendre ce qu'il dit, mais il faut aussi comprendre que. Un stratège comme lui a toujours envie de masquer une chose par une autre. C'est un jeu de diapositives ou d'écrans, si vous voulez, qui n'arrête pas de coulisser les uns par devant les autres. Et de dire c'est un décor disco, ce que ça n'est évidemment pas, ou pas seulement, c'est une façon aussi de, en tout cas à mes yeux, de dire vous pouvez le voir comme ça et je vous autorise à rester à la surface de mes tableaux, mais c'est une façon aussi de pointer la naïveté ou la crédulité plutôt, disons, d'un public qui est habitué à un Warhol mondain, un Warhol qui hante les boîtes de nuit, qui est une social figure de la scène new-yorkaise, etc. Voilà, c'est l'antithèse même de ce que sont fondamentalement les Shadows.
C'est ça qu'ils jettent ?
Ouais, je pense pas mal. Juste
là-bas ? Là, les voies, moi je suis à fond.
Vas-y à fond ?
À fond de la caisse.
J'ai été très surpris par la texture des noirs. Déjà, le noir c'est extrêmement difficile à éclairer. C'est vraiment une surprise au déballage des œuvres. À laquelle je ne m'attendais pas du tout. Sinon, ma première impression, c'est vraiment je suis surpris par la fraîcheur et la force des couleurs qui sont masquées par ces grands aplats noirs. Et c'est quelque chose qu'il faut, pour faire ressortir la couleur en éclairage, il faut aussi une certaine quantité d'éclairage, sinon tout devient terne. C'est un effet physiologique dans notre œil. Donc je cherche maintenant la bonne quantité. C'est vraiment comme moi je le vois vraiment comme un travail de haute couture. On repasse plusieurs fois en essayage. On en a pour un petit moment.
Ouais. Enfin, on le voit tous, c'est des couleurs très vives, très fluo, ça me fait penser à une boule à facettes, un peu ces lumières projetées comme ça à travers des diapositives très, très lumineux, et en même temps ce noir extrêmement présent, très envahissant, et c'est ça qui est très surprenant, à la fois très électrique, très joyeux, c'est ça qui... et puis en même temps ce côté très sombre de cette flamme qu'on n'arrive pas à définir, ce côté vraiment de pénétrer presque dans une grotte, quoi, en fait, avec quelques comme ça pointes qui clignotent d'un tableau à l'autre.
Vous parliez de chapelle aussi à l'NQF.
J'ai parlé de chapelle, moi.
Au téléphone.
Ah bon.
En tous les cas, il y a une dimension qui est forte quand on rentre, c'est une œuvre enveloppante, quoi. On est et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, et c'est un mot qu'on utilise peu au sujet de Warhol, c'est qu'il y a une forme d'intimité avec lui, alors qu'on est plutôt dans une, généralement, une distance avec lui. Et cette œuvre, pour le coup, elle nous enserre.
Oui, elle nous embrasse, elle nous prend par la main. Elle nous prend par la main, absolument. Mais vous savez, il y a d'autres œuvres où vous avez cette proximité avec ce que Warhol voulait dire. Moi, je sens une proximité très forte avec les chaises électriques, par exemple. Je sais pas, j'ai le sentiment d'être dans la pièce. Je sais pas, ou à travers le mécanisme, encore une fois, de la répétition, de la scansion, de la prière, avec le portrait du Christ inspiré de Léonard de Vinci, donc qui fait partie du cycle de la dernière scène dans les dernières années de la vie de Warhol. Le Christ des centaines de fois, jaune sur fond noir. Vous avez aussi par la simplification du trait à laquelle Warhol s'était livré, la réduction à vraiment un archétype, hein, ce qui est encore une dimension de la culture orthodoxe, la sensation d'une proximité très grande avec Warhol. Donc il y a chez lui de toute façon l'ambition est de vous envelopper. Alors évidemment c'est une intimité qui n'est pas familière, c'est pas de la familiarité, c'est pas de la trivialité, c'est pas une grande claque sur le dos, pas du tout, mais je pense que l'idée de chapelle peut être conservée, oui, si on la rapporte à quelque chose qui serait l'ouverture à une dimension autre, à une dimension inconnue, donc celle de la mort, celle du mystère de la mort. Mais en même temps, il n'y a rien de morbide. C'est ça aussi la morale de Warhol, c'est que parler de la mort n'est pas nécessairement... n'implique pas nécessairement de se recroqueviller sur soi ou de se torturer. Bien sûr, elle est angoissante, mais en même temps, l'homme religieux qu'il est sait qu'elle est une nécessité pour passer à autre chose. C'est là où il est, je crois, encore vraiment fascinant. Mais il est, si on veut bien... se souvenir que c'est aussi un homme qui a un humour incroyable et je sais plus, je crois que c'est dans ma philosophie, je crois, où il parle des moments où il passe l'aspirateur, où il fait le vide justement, mais il le fait par le moyen de l'aspirateur. Donc il y a une capacité chez lui à se saisir de la dimension triviale de la vie quotidienne et à lui donner des résonances qu'on met parfois un peu de temps à entendre, mais qui sont bel et bien là. Le vide de Warhol a du fond. Et le nihiliste n'est pas celui que l'on croit. Parce qu'il n'y a vraiment pas de nihilisme chez Andy Warhol. C'est un contresens que de continuer à répéter que c'était un nihiliste.
Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me.
Dans les ombres d'Andy Warhol.
I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint.
Avec Myriam Corrichi, Alain Cueff, Sébastien Gokalp, Hervé Vanel et la voix d'Andy Warhol et de Philippe Solers.
Billy Name was sick, I locked up in his room. He asked me for some speed, I thought it was for you.
Lecture de ma philosophie de A à B et du journal d'Andy Warhol, Geoffrey Carré. Prise de son, Marc Gardenès.
Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me.
Mixage, Julien Douminc.
Good night,
documentaliste, Anne-Lise Signoret. Archivina, Arnaud Planson. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Christine Robert.
Goodbye, Andy.